Bonjour à tous, aujourd'hui dans PsychoShot, un nouvel entretien que je réalise à la suite de questions de parents qui s'intéressaient à la thématique de l'attachement et qui souhaitaient connaître les thérapies envisageables pour travailler sur ces stratégies d'attachement et celles de leurs enfants. Je vous laisse avec Johanna Smith, psychologue clinicienne spécialiste du sujet. Bonjour Johanna, ravi de vous accueillir sur PsychoShot. Aujourd'hui, vous allez nous parler du développement des stratégies d'attachement chez l'enfant et des thérapies qui permettent de mettre en place de nouvelles stratégies d'attachement comme l'intégration du cycle de vie, l'ICV, thérapie que vous pratiquez en tant que thérapeute et à laquelle vous formez des psychologues. Mais avant de rentrer dans tous ces sujets, ce que je vous propose, c'est tout simplement de nous présenter votre parcours.
Merci pour l'invitation. Je suis Johanna Smith, je suis psychologue clinicienne depuis près de 25 ans maintenant. Pendant les 15 premières années de mon exercice, j'ai travaillé auprès d'auteurs de violences, en particulier d'auteurs de violences sexuelles, à travailler à la prévention de la récidive, bien évidemment, et aussi en psychiatrie. Puis petit à petit, je me suis formée au psychotrauma et à la prise en charge des victimes. Je me suis formée à l'EMDR et ensuite à l'ICV, dont je suis devenue formatrice aujourd'hui. Et ça m'a amenée à m'intéresser à l'impact des 1000 premiers jours de vie, en particulier de l'attachement, sur le développement et notamment sur le devenir chez les adultes. Quel impact cette période de la vie dont on ne se souvient pas finalement, quel impact il a sur notre santé mentale, notre capacité à réguler nos émotions, notre image de nous, notre estime de nous aussi à l'âge adulte, à partir justement de ces expériences de thérapie où j'ai commencé à travailler sur cette période très précoce avec mes patients et à voir des choses assez étonnantes changer, y compris chez des personnes qui jusque-là ne changeaient pas beaucoup, donc, comme si ça donnait accès à quelque chose d'un petit peu différent. Et ça m'a amené à me former encore plus sur cette période de la vie, à faire un diplôme d'université sur l'attachement, entre autres, et à m'intéresser tout particulièrement à ce qu'on appelle les neurosciences affectives et la neurobiologie interpersonnelle. Alors, c'est des grands mots pour expliquer en gros comment on comprend que ces toutes premières interactions, ces tout premiers liens, ont un impact, et notamment comment les relations interpersonnelles ont un impact sur le cerveau, et en l'occurrence chez l'enfant, sur le cerveau en développement. Donc comment les liens parents-enfants vont aider ou pas, plus ou moins bien, le cerveau à se développer, et donc des compétences qu'on aura ensuite pour la vie, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a amené, alors que vous travaillez déjà sur le trauma, à vous spécialiser en ICV ?
C'est vraiment honnêtement un peu par hasard que je suis tombée sur l'ICV. La particularité de l'ICV, c'est entre autres que c'est une thérapie du trauma, mais c'est entre autres une thérapie qui permet justement d'aborder cette période précoce. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de voir ces patients qui jusque-là, alors qu'on avait un peu tout essayé, les médicaments, les thérapies de groupe, les thérapies individuelles, la thérapie du trauma, enfin vraiment pas mal de choses, ces patients-là, quand on commençait à travailler finalement sur, entre guillemets, le bébé intérieur, se mettaient à s'aimer davantage, se mettaient à être plus respectueux envers eux-mêmes, se mettaient à avoir davantage de connexion émotionnelle, davantage de sensations d'ancrage dans leur corps, par exemple pour des gens qui pouvaient être très très déconnectés, à avoir moins de comportements auto-agressifs, suicidaires, automutilatoires, etc. Et ça change tout en fait, donc ça m'a vraiment, vraiment intriguée. Et c'est effectivement à partir de là que j'ai commencé à me dire, bon là, il faut que je comprenne ce qui se passe, parce que j'allais un peu en confiance, en me disant, bon, bah, il paraît que ça marche, je vais le faire. et après l'avoir constaté, j'ai vraiment eu le besoin de comprendre un peu plus. Et notamment au niveau cérébral, quelle est la trace qu'on garde de cette période précoce, puisque surtout au début, je me suis formée à cette technique, on était en 2010, ça a un petit peu changé depuis, mais au début, dans mon entourage ou auprès des patients, j'avais beaucoup le commentaire « oui, moi, la mémoire précoce, la mémoire des tout premières années, j'y crois », ou au contraire « non, moi, j'y crois pas, je pense qu'on ne se souvient pas, donc c'est qu'il n'y a pas de traces, etc. »
D'accord, mais sur ce point, ce que disent les recherches, c'est que les enfants forment plutôt des souvenirs à partir de 2 ans.
Il y a un auteur qui dit « c'est une mémoire impossible à se remémorer et impossible à oublier ». Je trouve que c'est assez bien dit. Et ce que mes lectures, notamment sur la recherche, sur le développement cérébral, ont mis en évidence et m'ont permis de comprendre, c'est que c'est quand même assez pernicieux, finalement, la mémoire de cette période des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, ça commence à la conception. En gros, ça va jusqu'à 2 ans. Et c'est vrai qu'à partir de 3-4 ans, on commence à avoir les premières bribes de souvenirs dans nos sociétés, en tout cas. Et puis vers 4, 5, 6 ans, des souvenirs un peu plus construits. Pour avoir des souvenirs, il faut avoir un certain nombre de zones du cerveau qui sont assez matures, notamment la zone verbale, parce qu'un souvenir, c'est déjà se raconter une histoire. C'est pour ça que les premiers souvenirs, généralement, c'est juste des flashs. C'est « je suis à la crèche, je suis à la garderie, j'ai une image, point ». Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est quand même déjà un souvenir. Il y a besoin de pouvoir se dérouler quelque chose, donc d'avoir la sensation du temps qui passe, d'être clair là-dessus, sur le fait que le présent n'est pas un éternel présent. Le bébé, vraisemblablement, il n'a pas du tout cette notion-là. Quand il, c'est pour ça que quand il va mal, il pleure très vite, très fort, parce qu'il n'y a pas la sensation et la confiance que, ben, y a quelqu'un qui va arriver et que ça ne va pas durer éternellement. Quand on entre à l'école à 3 ans, on commence à avoir intégré ça et on sait qu'il y aura une heure des papas et des mamans, ce qui serait totalement inconcevable un peu plus tôt dans la vie d'être comme ça en collectivité, comme on l'est à l'école. Donc cette mémoire précoce, son côté un peu pernicieux d'une certaine façon, c'est que c'est une période où le cerveau est en plein développement, mais vraiment un développement énorme. Et que le cerveau humain est très peu déterminé génétiquement. Comme il est très peu déterminé génétiquement, en gros, on va avoir des structures, et puis on laisse à l'environnement le soin de stimuler ce cerveau pour que ce plan, en fait, se construise, donc pour que ce plan génétique se développe de plus en plus. Il faut savoir que le déterminisme génétique du cerveau n'est pas le même en fonction des endroits. C'est-à-dire que les parties qui vont se développer le plus tôt dans la vie, notamment in utero, sont les plus déterminées génétiquement. Évidemment, une fois qu'on est dehors et plus on grandit, plus les structures et les fonctions et les compétences finalement qu'on développe sont influencées par l'environnement. Ce qui veut dire que concrètement, notre cerveau, il se développe du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant et de la droite vers la gauche. Donc, les fonctions très élémentaires qu'on a dans le tronc cérébral, c'est-à-dire tout en bas du cerveau, comme la régulation de la température, du rythme cardiaque, des fonctions physiologiques élémentaires, ça, heureusement, c'est assez génétique. On sait à peu près faire tout ça, réguler sa température, ça prend quelques jours, mais en gros, assez rapidement, on arrive à avoir ces fonctions-là, et c'est grâce à ça quand même qu'on survit. Mais, par exemple, la régulation des émotions, pouvoir attendre pour plus tard, pouvoir négocier, prêter à quelqu'un, pas manger tout de suite quand on a faim, ça, c'est pas des choses qu'on sait faire tout de suite. Pouvoir se calmer quand on est triste, chercher du réconfort, exprimer sa colère, évidemment, ça, c'est des fonctions extrêmement élaborées. Et c'est des fonctions qu'on va finalement beaucoup développer au cours de cette période précoce. Un nourrisson n'est pas du tout capable de développer cette capacité, il est capable de la développer, mais il n'est pas encore capable de réguler ses émotions, de se calmer tout seul, par exemple. Enfin, s'il a de la chance, il arrive à choper son pouce, mais ça ne va pas durer très longtemps, généralement, comme capacité à se calmer, comme efficacité. Alors que 3 ans plus tard, c'est pas encore ça, mais quand même, on peut négocier, on peut reporter à plus tard, on peut comprendre que, ben non, là, désolé, on est dans un magasin, il faut qu'on passe à la caisse avant d'aller aux toilettes parce que là, t'as envie de faire pipi maintenant. Oui, enfin, des choses comme ça qu'un nourrisson peut déjà physiologiquement pas comprendre, mais intellectuellement non plus. Bref. Donc, tout ça pour dire que ce qui est intéressant au cours de cette période précoce, c'est que on va être très dépendant de la stimulation de l'environnement pour développer notre cerveau comme il faut. C'est-à-dire que notre mémoire, c'est à la fois du contenu, comme la mémoire ultérieure, je fais des expériences que je mémorise, par exemple, je peux faire, déjà in utero, sur le dernier trimestre de la grossesse, des expériences de peur. Je peux faire des expériences mnésiques, me souvenir et reconnaître une musique ou la voix de ma mère que j'ai connue in utero, je peux les reconnaître après être née. Mais l'idée, c'est que on commence à la fois à assimiler, à assimiler du contenu, mais surtout que les expériences qu'on fait conditionnent la façon même dont le cerveau se développe. Par exemple, l'exemple type qu'on donne souvent, qui est un peu extrême et qui permet du coup de bien voir l'effet sur le cerveau, malheureusement, c'est les orphelins roumains. Étudier les cerveaux des orphelins très très déprivés, donc qui ont manqué de soins, qui ont été négligés, qui ont vraiment beaucoup manqué de cette stimulation relationnelle qui est capitale pour que le cerveau se développe bien. Et on voit bien à l'imagerie cérébrale qu'il y a des parties du cerveau qui sont vraiment sous-développées. Et heureusement, quand ils sont remis dans un environnement beaucoup plus favorable, le cerveau reprend son développement. Donc c'est pas comme si chez certains animaux où on est obligé de faire une expérience à une certaine date, à une certaine période, et après, si on loupe le coche, on ne pourra plus jamais développer ses acquisitions. le cerveau humain est quand même très plastique. Donc, si, même s'il y a des périodes optimales, même si il manque ce dont il aurait besoin au cours de ces périodes optimales, par exemple, cette expérience de sécurité qu'on va avoir dans le lien d'attachement, si tout va bien au cours de la période préverbale, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour que le cerveau se développe bien. Pourquoi ? Parce que le réconfort, la réponse rapide et efficace aux pleurs, à la détresse, une réponse sensible, une compétence finalement parentale de bonne qualité, vont limiter l'immersion finalement du cerveau dans les hormones de stress. Il faut un petit peu de stress pour se développer, mais pas trop. Et on s'est rendu compte que, déjà in utero, hein, c'est vrai, le stress, les hormones de stress, en fait, impactent les cellules et les structures qui sont en plein développement. Et comme le cerveau ne se développe pas tout pareil d'un coup partout, les moments de stress intense qui ne sont pas suffisamment apaisés par notamment les figures d'attachement, par l'environnement de façon générale, vont impacter les structures du cerveau qui sont en développement à ce moment-là. Et en particulier au cours de la période des 1000 premiers jours, c'est la capacité à focaliser son attention et la capacité à réguler ses émotions, donc à s'apaiser quand on est en colère, quand on est triste, quand on est effrayé. C'est quelque chose qu'on apprend petit à petit à faire tout seul au cours de cette période précoce. S'il y a trop de stress, ben ça risque, mais c'est juste un risque, mais ça risque, et ça a été mis en évidence scientifiquement, d'impacter ces zones du cerveau en développement et d'empêcher leur développement optimal.
D'accord. Donc, la mémoire précoce, c'est une mémoire émotionnelle, donc qui est constituée des empreintes sensorielles, des interactions que l'on a avec les parents, donc la chaleur, le toucher, les sons, les regards. Et c'est cette mémoire sensorielle qui va guider le développement de notre cerveau.
Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est juste une partie du corps. Si vous faites du sport, et que vous vous mettez au sport, les premières fois, vous allez avoir des courbatures. Si vous n'augmentez pas ce que vous faites en termes d'effort, de durée, de quantité, vous n'aurez plus de courbatures. Votre masse musculaire ne va pas se développer plus. Il faut mettre le corps un peu en inconfort pour qu'il développe, vous voyez, qu'il en fasse un petit peu plus. L'idée là-dedans, c'est que on va investir dans la croissance des organes et notamment là en l'occurrence des muscles qui nous servent le plus. Si une fois je fais un effort ponctuel, je vais peut-être avoir des petites courbatures, c'est possible, mais en fait la masse musculaire assez rapidement va de nouveau fondre, elle va pas s'adapter. Notre corps s'adapte à ce qu'on fait le plus fréquemment pour que ça nous coûte moins d'efforts en fait. Et au niveau cérébral, c'est exactement pareil. On va développer les structures cérébrales qu'on utilise le plus. Donc, si je vis dans un environnement, si je suis bébé, je vis dans un environnement extrêmement stressant, avec des parents super anxieux, et que ce soit à raison, à tort, peu importe. Moi, bébé, ce que je perçois, c'est l'état de leur corps, c'est l'état physiologique de leur système nerveux. La façon dont ils me portent, la façon dont ils sont brusques quand ils me, parce qu'ils sont stressés quand ils me manipulent, qu'ils me changent, etc. De mille et une façons corporelles, je vais percevoir l'état de leur système nerveux. Et ça, ça va m'aider, moi, à développer un système nerveux qui est adapté à ce niveau de danger que je perçois dans l'environnement dans lequel je grandis.
Justement sur ce point, une des grandes sources d'inquiétude des parents, c'est leur capacité à répondre de manière juste aux besoins de leurs enfants, notamment lors des pleurs qui sont inévitables avec les bébés et les nourrissons. J'aimerais bien juste avoir votre avis sur un point, c'est que depuis quelques années, il y a de nouveaux débats sur le fait de laisser pleurer son bébé quelques minutes pour qu'il apprenne à se rassurer par lui-même. Il y a notamment une thérapeute qui conseille de laisser pleurer l'enfant 5 minutes, puis aller le consoler, puis le laisser pleurer 10 minutes, aller à nouveau le consoler, et s'il continue à pleurer, le laisser pleurer 15 minutes et aller le consoler toutes les 15 minutes. Qu'en pensez-vous ?
Moi, en tant que thérapeute du trauma, ce que j'observe, c'est que physiologiquement, il a été démontré que quand on vit des émotions très intenses pendant trop longtemps, on débranche. C'est-à-dire que c'est juste logique. Imaginez-vous, au niveau de l'évolution d'espèces, ça nous aide beaucoup de réfléchir comment ce système des pleurs il s'est développé. Si je suis bébé et que je pleure, et il n'y a personne qui vient, ça veut vraisemblablement dire que je suis en grand danger. Je n'ai pas intérêt à attirer les prédateurs puisque ceux qui sont censés s'occuper de moi ne viennent pas à mes appels. Donc, à un moment donné, c'est quand même un signe de danger très important. Et ce sont les bébés qui ont su switcher à un moment donné à l'arrêt des pleurs et en l'occurrence débrancher. Pour arrêter les pleurs, quand on est bébé, on ne peut pas juste le décider. Déjà, adulte, ce n'est pas facile, mais alors bébé, ce n'est pas possible. Donc, ce qui permet l'arrêt des pleurs, en fait, au niveau physiologique, et ça, c'est vraiment du fonctionnement lié au trauma, c'est que quand on ne peut pas fuir ou combattre, quand on n'a plus de perspective de se sortir de la situation à laquelle on est, on a des mécanismes physiologiques de bascule où on ne sent plus le danger, où on s'anesthésie. C'est-à-dire que la seule façon de survivre dans des situations de stress prolongé, par exemple dans des situations de maltraitance, si mon système nerveux est constamment en train de me signaler du danger alors que je ne peux pas m'extraire de cette situation, c'est très toxique pour mon corps en termes d'hormones de stress. Donc j'ai intérêt à ce qu'à un moment donné, il y ait cette bascule qui se fasse où mon corps ne va plus produire d'hormones de stress face au même niveau de danger. Il va s'insensibiliser et avoir besoin d'un niveau de danger un peu plus important pour déclencher la réponse de stress. Donc, c'est assez plausible, malheureusement, que dans cette situation, cette technique d'apprendre au bébé à s'endormir seul en les laissant pleurer, outre le fait que quand même les parents qui l'ont mise en application généralement disent à quel point ça leur a fendu le cœur et tordu les boyaux, enfin, c'est quand même, ça dit quelque chose. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut quand même écouter notre système nerveux, ce qu'il nous dit, et pas juste ce qu'on nous dit dans les livres ou les podcasts même. Hein. N'écoutez pas ce que je vous dis, écoutez-vous. Alors, pas toujours, hein. Tout ce qu'on ressent, c'est le fruit de notre histoire, c'est parfois biaisé, mais c'est quand même une information. Et je crains que ces bébés qu'on laisse pleurer sont juste en train de mettre en œuvre ce mécanisme physiologique qu'on connaît bien ultérieurement, de débrancher. C'est-à-dire, le gros risque, à mon avis, qu'on prend, c'est d'en faire un bébé qui a juste désespéré, en fait. Hein. Physiologiquement, il abandonne l'idée que quelqu'un viendra le chercher. Ceci étant dit, je pense aussi qu'il y a, notamment dans nos générations, nous qui sommes parents aujourd'hui, un certain nombre de parents qui ont eux-mêmes subi ce traitement-là. Et ce que j'ai observé dans le suivi de mes patients, c'est que parfois, en tant que parent, on a du mal à répondre aux besoins de notre bébé parce qu'on a soi-même des plaies comme ça qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Et ce qui est particulièrement vicieux dans cette période préverbale, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Donc, on peut observer des parents qui sont ultra intolérants aux pleurs de leur bébé, c'est-à-dire ultra intolérants au sens ils vont accourir au moindre petit grognement. Et ça, c'est dommage parce que là, pour le coup, je ne dis pas qu'il faudrait le laisser pleurer ce bébé, mais il faudrait le laisser grognouiller, quoi, chouinouiller. Enfin, ce n'est pas laisser pleurer les grands pleurs. C'est que petit à petit, le bébé il va aussi avoir des moments comme ça où il se réveille, où il... et puis il râle un peu, et puis il se rendort. Et c'est très positif qu'il puisse faire cette expérience-là. Et là, on n'est pas en train de le laisser entrer dans un état de détresse improbable où on se tord les boyaux. Mais si en face, on a un parent qui, lui, a vécu cette grande détresse, je dis ça parce que j'ai eu à le traiter, c'est-à-dire des parents qui ne tolèrent pas les pleurs de leur bébé, on les fait imaginer en thérapie comment ça pouvait être pour eux être bébé, parfois ils savent hein, qu'on les a laissés pleurer, et le fait d'aller réparer ça leur permet d'avoir un comportement très différent avec leur enfant parce qu'ils réagissent émotionnellement très différent, ils ne réagissent plus depuis cet endroit qui est douloureux, qui est effrayant de leur expérience de bébé, mais ils arrivent à percevoir l'expérience de leur bébé pour ce qu'elle est. Ils ne la décodent pas à travers un filtre douloureux. Et ça, on a ça à tous les âges. Hein. On ne l'observe pas juste sur la période bébé. Très couramment, quand les parents sont en difficulté avec quelque chose de façon récurrente, ils savent très bien qu'il faudrait qu'ils fassent comme ci, comme ça. Ils ont lu plein de bouquins d'éducation, etc. Donc, ils voudraient faire autrement, mais ils n'y arrivent pas. Généralement, il y a leur propre blessure derrière et quand on y travaille, quand on traite ces traumas ou ces événements marquants de l'enfance, j'ai envie de dire un peu comme par magie, mais c'est juste logique, ils redeviennent capables d'être un parent pour leur enfant et pas pour leur enfant intérieur à la place, quoi.
Avant que vous nous décriviez les thérapies qui peuvent nous permettre d'améliorer nos stratégies d'attachement, est-ce que vous pourriez nous rappeler avec vos mots ce qu'est l'attachement ?
Alors l'attachement, c'est un ensemble de comportements. Que, alors là, en l'occurrence, le petit, mais qui est valable tout au long de la vie, donc aussi des plus grands et jusqu'à l'âge adulte et jusque même chez les personnes âgées, on a tous un système d'attachement qui est un système qui organise ses comportements, qui s'active pour solliciter l'aide de l'autre dans des situations de détresse. Quand on est adulte, en situation de détresse, on peut fuir, on peut combattre, et ou on peut demander, appeler les pompiers par exemple, donc demander l'aide de quelqu'un d'autre qu'on estime plus compétent, plus sage, et capable de nous aider. Et généralement, dont on a l'expectative qu'il aura à cœur de nous aider. Ça, ça se construit au cours de ces expériences précoces, puisque le nourrisson, lui, ne peut pas vraiment fuir, il ne peut pas du tout combattre. Donc, quand son système d'alarme est déclenché, il n'a pas ces alternatives de fuir ou combattre qu'on a nous. Donc, le système de la peur va très rapidement déclencher, ou le système de la détresse, disons, va très rapidement déclencher le système d'attachement chez l'enfant. Là où plus tard, ça va être deux systèmes un petit peu plus dissociés, disons. Ce système d'attachement, ce qui est intéressant, c'est que il va, comme il est déclenché par l'alarme, il est prioritaire sur tout le reste. C'est-à-dire que si j'ai de la détresse et que je ressens vraiment le besoin d'être avec la personne qui prend soin de moi, qui va m'aider, ben je ne vais pas être capable de travailler, par exemple. Si j'ai absolument besoin de parler de mon conjoint, de quelque chose de bouleversant qui vient de m'arriver, je ne vais pas pouvoir faire mes consultations, par exemple. Donc, le système d'attachement, il prend le pas sur tout le reste. C'est pour ça que c'est super important de s'en occuper, parce que chez l'enfant, un système d'attachement qui n'est pas, je dirais, apaisé, suffisamment éteint régulièrement, suffisamment calmé, parce qu'il n'est pas toujours allumé, il est allumé que dans les situations de détresse, il peut empêcher de se concentrer à l'école, par exemple. Il peut empêcher de s'intéresser aux choses, parce qu'il y a un autre système qui est super intéressant, c'est le système d'exploration. On ne peut pas parler de l'attachement sans parler de l'exploration. Quand le système d'attachement est éteint, l'enfant explore. Quand le système d'attachement s'allume, il ne peut plus explorer. L'exemple typique, c'est l'enfant qui est au parc. L'enfant est au parc, il joue, il va sur le toboggan, etc. Et mettons qu'il descende du toboggan un peu brutalement et il tombe sur le genou. Évidemment, il va probablement se mettre à pleurer. S'il en est capable, il va rejoindre sa figure d'attachement. Peut-être que sa figure d'attachement va le rejoindre pour venir voir un petit peu ce qui se passe, non seulement au niveau de la blessure, mais aussi pour le réconforter, parce qu'il a eu peur. Donc, si tout va bien, il va avoir une réponse à ses besoins d'attachement, qui est d'être rassuré et d'être pris en charge au niveau de la détresse. Une fois que, mettons, papa ou maman a pris le petit sur ses genoux, une fois qu'il est rassuré, réconforté, il descend des genoux tout seul, il retourne jouer. Vous voyez, ça, c'est le signe que l'attachement a bien été apaisé. Il y a vraiment une idée reçue qui est, à mon avis, importante à débusquer. C'est qu'on peut être un parent très aimant et de très bonne volonté et ne pas réussir à sécuriser son enfant. La plupart des parents veulent le bien de leur enfant, peuvent avoir des fausses croyances, mais en fait, ces fausses croyances, généralement, sont issues de leur propre histoire. Alors, soit avec laquelle ils ont, généralement pas pris de recul, donc soit avec laquelle ils sont en congruence, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme leurs parents, soit au contraire, ils vont dire « Ah non, mais moi j'ai été maltraitée, par exemple, ou on m'a laissé pleurer, et donc je veux surtout jamais laisser pleurer mon bébé, ou je veux surtout jamais monter le ton, et puis je me retrouve à jamais réussir à lui dire non, par exemple, ce qui est quand même une grosse difficulté. » Donc, c'est cette distance-là qu'il faut réussir à prendre, et c'est évidemment très dur quand ça touche au préverbal, parce qu'à part le récit de nos proches et nos parents de l'époque, on n'en sait pas forcément grand-chose, pour pouvoir être un parent sensible aux besoins de notre enfant. Et c'est pas le niveau d'amour. Enfin, on peut être vraiment très aimant et malheureusement aussi maltraiter son enfant. On voit comment les parents maltraitants, quand leur enfant est placé, peuvent exprimer une très grande détresse, et elle est sincère. Et ça, c'est un peu dur à penser, quoi. C'est un peu dur à comprendre.
Concernant ces parents qui sont aimants, mais qui n'arrivent pas à répondre aux besoins affectifs de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, concrètement? Est-ce qu'ils doivent forcément passer par une thérapie? Et si oui, quelle thérapie? Est-ce qu'il y a d'autres solutions?
Alors, peut-être avant ça, je dirais que ça peut être intéressant déjà de voir s'il a des modèles de comment il aimerait fonctionner. Parce que parfois, on a réparé son histoire d'attachement, mais on est quand même démuni, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et c'est là que la lecture des livres de parentalité, à mon avis, est vraiment très intéressante, parce qu'elle donne des exemples très concrets. Typiquement, « J'ai tout essayé » d'Isabelle Filiosa, c'est un livre quand même très concret, où on voit des petites interactions avec des BD, des vignettes, des alternatives. Et ça, Dans un certain nombre de cas, ça suffit déjà à faire changer les choses, en fait, au niveau de l'interaction, surtout si le parent arrive à bien réguler son stress, parce que c'est souvent quand on est stressé et pas disponible qu'on n'est pas au meilleur de soi-même en termes de parentalité ou d'autres choses, quoi. Et c'est là que le parent va crier alors qu'il sait très bien qu'il ne faut pas crier et qu'il voudrait ne pas crier, mais il n'arrive pas à faire autrement. Bref, cela étant dit, si après avoir construit un peu son modèle interne de comment j'aimerais faire et d'avoir ces techniques en tête et qu'on n'y arrive pas, ça, c'est probablement effectivement le signe qu'il y a une histoire d'insécurité, d'attachement, des fois même de trauma dans l'attachement derrière, qui nous empêche de mettre en œuvre ce que raisonnablement on aimerait mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a du cerveau émotionnel, pour le dire simplement, qui vient un peu parasiter nos compétences de résolution de problèmes plus rationnelles, plus corticales, plus matures, plus adultes. Et là, ça vaut le coup d'aller travailler en thérapie là-dessus. Alors, pour le lien entre thérapie et attachement, finalement, on peut dire qu'il y a trois types de thérapies en lien avec l'attachement. Il y a des thérapies qui ne s'intéressent pas du tout à l'attachement. Bon, ça, c'est une chose, mais parmi celles qui sont en lien avec l'attachement, on va avoir des thérapies tout à fait classiques, mais qui sont éclairées par l'attachement, c'est-à-dire un psychanalyste, un TCCiste, donc quelqu'un formé au TCC, un systémicien ou autre, qui a une formation en attachement et qui sait décoder les moments qu'on appelle attachement pertinent, c'est-à-dire des moments où le système d'attachement du patient est activé, typiquement la première consultation, la dernière consultation, les moments de séparation, de vacances, de congés, de maladie, etc., sont des moments où on va voir des comportements d'attachement généralement s'activer. Et donc, le fait d'avoir repéré ça, de pouvoir les décoder comme tels, c'est quand même très précieux. Ça, c'est les thérapies, je dirais, attachement informé ou éclairé par l'attachement. Ensuite, on a des thérapies qui se basent vraiment en tant que telles sur la théorie de l'attachement pour leur intervention. Là, typiquement, on utilise la théorie de l'attachement comme, je dirais, théorie de base. Alors, parfois avec une extrapolation, je dirais, de la théorie, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a développé dans une certaine direction, dans les thérapies basées sur la mentalisation, dans les thérapies centrées sur la thérapie centrée sur les émotions, par exemple. C'est des thérapies qui utilisent la théorie de l'attachement, mais qui ont généré un peu leur propre théorie. Et enfin, on a, je dirais, les thérapies de l'attachement, où là, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher la mémoire en codant les expériences d'attachement pour aller la réparer. Donc, c'est un peu sur le modèle des thérapies du trauma. On cherche à aller réparer des événements, pas forcément traumatiques, mais qui peuvent être marquants, perturbants, et qui ne sont pas tout à fait digérés comme finis, et qui continuent du coup d'agir et de nous faire réagir depuis un endroit qui devrait être classé comme terminé, quoi. Et ensuite, on a les thérapies de l'attachement, où là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les expériences et d'aller les réparer, entre guillemets. On a un certain nombre de thérapeutes EMDR qui sont formés à cette spécialité. Alors, tous les thérapeutes EMDR ne le sont pas, mais c'est la thérapie EMDR centrée sur ce qu'on appelle les empreintes précoces. Donc, c'est l'idée des traces très précoces dans l'histoire de vie. Et puis, on a, entre autres, le Lifespan Integration, donc l'ICV, dont je suis formatrice, donc évidemment que je connais beaucoup mieux. On a aussi des thérapies comme le DDP ou Theraplay, qui sont des thérapies parents-enfants, où là on va aller travailler et qu'on peut utiliser avec l'enfant dans le parent généralement, où on va aller travailler à relancer les interactions. Et pour revenir à la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un parent peut faire s'il a de la difficulté avec son enfant, Theraplay peut être quelque chose de vraiment très intéressant, puisque il se base sur les compétences, sur ce qui fonctionne, et développer ce qui fonctionne moins bien en se basant sur ce qui fonctionne. Donc là, ça, c'est très stimulant.
Merci beaucoup de votre écoute. Vous venez d'écouter la première partie de cet entretien avec la psychologue Johanna Smith. Dans une seconde partie, elle développera plus en détail l'intégration du cycle de vie, l'ICV. Dites-moi dans vos messages ce que vous pensez de ce format, le fait d'avoir des psychologues qui viennent partager leurs connaissances, leurs expériences sur des sujets spécifiques. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt avec la deuxième partie de cet entretien et de nouveaux épisodes de PsychoShot.